Bonjour à tous. Entre l'Ascension et Pentecôte, nous avons la joie de nous rencontrer dans cet endroit chargé d'histoire, au milieu d'un cadre naturel magnifique. Pâques est passé, nous avons célébré la résurrection de Jésus, Fils de Dieu, la condamnation à la crucifixion, l'agonie sur la croix, et la mise au tombeau n'était pas la fin d'une histoire tragique. Jésus est ressuscité et nous sommes entrés dans une nouvelle période du projet de Dieu pour l'humanité. Le mal a été vaincu, le royaume de Dieu est déjà venu, mais pas encore complètement installé. Il nous reste, génération après génération, à participer au programme de restauration de la justice, de rétablissement de la paix et de vivre dans une relation d'amour les uns pour les autres, selon l'enseignement de Jésus. Le récit des évangiles après la résurrection de Jésus diffère d'un auteur à l'autre. Matthieu rappelle les dernières paroles de Jésus, chapitre 28, verset 18. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Marc également cite Jésus, 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. » Et au verset 19, il dit « Le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Jean conclut, juste après le récit de l'entretien de Jésus avec Pierre qui confirme son amour inconditionnel, chapitre 21, verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Luc enchaîne le récit du chemin d'Emmaüs, la rencontre avec les disciples, le partage d'un repas, poisson rôti et miel, au menu s'il vous plaît. Et pour preuve de sa résurrection corporelle. Au chapitre 24, verset 45, il dit « Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Au verset 47, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, la puissance d'en haut. Pendant qu'il les bénit, Jésus fut enlevé au ciel, les disciples retournent à Jérusalem et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Aucune trace de ces 40 jours qui séparent Pâques de l'Ascension. Mais quand même, l'idée générale que Jésus a donné des instructions pour que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, à toute la création, et que les hommes et les femmes pouvaient recevoir une aide divine, le Saint-Esprit, pour les aider dans ce projet. Dans le livre des Actes des Apôtres, dont l'auteur est Luc, le même que celui qui a écrit l'évangile du même nom, nous lisons. Acte 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On pressent une nouvelle aventure qui commence, une transition vers un monde nouveau, le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus a pu rappeler à ses disciples ce que la bonne nouvelle rend possible, ce monde nouveau auquel nous sommes appelés à participer. En présence de Jésus, ils ont expérimenté que la bonne nouvelle permet aux aveugles de voir, aux paralysés de se mettre en mouvement. La femme adultère qui devait mourir sous les cailloux a pu bénéficier d'une vie nouvelle. Tous ceux qui tenaient les pierres prêts à les lancer les laissent tomber, en prenant conscience de leur propre culpabilité. Zachée, le collecteur d'impôts, devient un autre homme après sa rencontre avec Jésus. Il rembourse toutes les sommes perçues indûment. La rencontre avec Jésus change les vies. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. La violence s'arrête, plus personne pour jeter les pierres. Les fonctionnaires corrompus, protégés par le pouvoir en place, retrouvent le sens de la justice et de l'équité. Les personnes fragilisées de la société retrouvent leur dignité humaine et une place dans une communauté apaisée qui se soucie du bien-être de l'autre. Jésus rappelle une dernière fois que les disciples ont été témoins de cet enseignement, de son agonie, de sa mort, de la puissance de sa résurrection. Et voilà qu'il s'élève dans le ciel. Une nuée le dérobe à leurs yeux. Fin de l'histoire. Seulement une histoire. Il leur reste des souvenirs d'un temps heureux où Jésus était présent physiquement pour régler les petits problèmes du quotidien, quelquefois de façon spectaculaire, lors de la multiplication des pains pour nourrir la foule ou d'apaiser la tempête sur le lac pour éviter le naufrage. Pour les disciples, les yeux fixés vers le ciel, le retour à la vie réelle terrestre est compliqué. L'apparition de deux hommes vêtus de blanc ne facilite pas les choses. Jésus est parti vers les cieux et il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Le mystère s'épaissit. Les 11 disciples et leurs proches deviennent autonomes dans l'action et ça les angoisse de ne pas savoir ce qui va arriver. Mais le temps est venu pour quelque chose d'inédit. Le temps est venu où il ne faut plus simplement se souvenir du passé, mais aller de l'avant pour exécuter la mission confiée. Les dernières paroles de Jésus sont rassurantes. Verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On revient sur terre et on se retrousse les manches pour accomplir la mission. Pierre et Jean resteront à Jérusalem comme base arrière. Jacques et André, vous irez dans la Judée. Philippe et Thomas iront en Samarie. Barthélemy et Matthieu, vous irez à Albérée. Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, vous irez à Tsikao. Et Jude ira à Darnée. Une personne à Darnée, ça suffit, la région est peu peuplée. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous démarrez tout de suite. Place à l'action. Excusez-moi, je m'égare, ce n'est pas ce que dit le texte. Verset 4. Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre. D'attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. À force d'entendre les recommandations de Jésus, les 11 apôtres conviennent qu'il vaut mieux pour eux d'écouter et de mettre en pratique ce que Jésus recommande. Ils vont à Jérusalem, dans la chambre haute, pour se soutenir mutuellement et fréquenter également assidûment le temple, en attendant que quelque chose se passe. Alors que la Palestine est occupée par l'armée romaine, les disciples attendent le rétablissement du royaume d'Israël. C'est effectivement une prophétie biblique qu'on peut lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 ou Joël au chapitre 2 et 3. La réponse de Jésus à ce sujet est toujours la même. Ce n'est pas aux humains de connaître et de spéculer sur les événements de la fin des temps et de la restauration de la création, selon le projet de Dieu. Génération après génération, des hommes, plus ou moins complotistes, discernent des événements ou un enchaînement d'événements qui leur permettent de fixer une date de fin des temps, de fin du monde. La réponse de Jésus est toujours actuelle. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Entre l'ascension et Pentecôte, les disciples attendent quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit. Pendant cette attente, le texte ne nous précise pas dans quel état d'esprit étaient les disciples. Attendre combien de temps ? Fallait-il craindre les autorités qui avaient prononcé la condamnation de Jésus ? Le temps d'attente est néanmoins mis à profit pour choisir un remplaçant à Judas, le traître, peut-être pour accompagner Jude pour aller à Darnée, mais c'est pas. Et un temps pour prier, pour se soutenir et se fortifier mutuellement en présence de Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, le noyau rapproché des fidèles. Attendre. Et pourquoi pas démarrer tout de suite ? C'est parce que Jésus leur a recommandé d'attendre que quelque chose se passe, que le Saint-Esprit annoncé et promis devienne palpable. La suite de l'histoire de Jésus n'appartient pas aux hommes. C'est Dieu qui a l'initiative. Il ne suffit pas d'essayer d'imiter, de reproduire l'enseignement du Christ d'après notre propre volonté, nos propres motivations pour faire quelque chose à n'importe quel prix. À ce stade de l'histoire, il convient d'attendre et de prier. Nous savons que 10 jours après l'ascension, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, le Saint-Esprit a été répandu sur l'assemblée des disciples de Jésus réunis. Et nous, nous nous situons dans l'histoire après cet événement spectaculaire. Pourtant, il faut bien le reconnaître, dans notre vie, il convient également d'attendre avant d'agir. Dans nos discussions quotidiennes, nous pouvons avoir des divergences d'opinion. Plutôt que d'aller au conflit, attendre avant d'imposer notre point de vue est moins conflictuel. Lorsque nous communiquons, par message ou par mail, il est des moments où il serait plus sage d'attendre avant de cliquer sur « Envoi » au risque de susciter une polémique clivante. Nous pouvons également attendre que le Saint-Esprit nous inspire avant de jeter de l'huile sur le feu, que ce soit en famille, au travail, dans l'Église ou dans la société. Attendre et se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour désamorcer les conflits, restaurer une relation paisible, vivre l'amour du prochain selon l'enseignement de Jésus. Mais attendre simplement ne suffit pas. La mission était annoncée clairement. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La tâche est immense. La puissance du Saint-Esprit va permettre la mise en action. Il y a un temps pour l'attente, il y a un temps pour l'action. Pour que notre rencontre ce matin puisse se dérouler, il fallait que chacun se mette en mouvement. Attendre, ce n'est pas procrastiner. Procrastiner, un mot français difficile. Procrastiner, c'est ne pas faire ce qu'on doit parce qu'on pense qu'on peut le faire le lendemain. Ce n'est pas une bonne attitude. Attendre, c'est se préparer pour l'engagement. Attendre n'est pas l'excuse bon marché pour l'inaction. Les disciples ont passé du temps dans la chambre haute, leur salle de réunion, ils allaient au temple. L'attente n'était pas passive. Luc raconte la suite. Pentecôte arrive très vite après l'ascension, 10 jours d'après nos traditions. Le Saint-Esprit se répand de manière spectaculaire. Les gens d'origine diverse se parlent et se comprennent. C'est la naissance de l'Église. La bonne nouvelle de l'Évangile se diffuse dans le monde. Tous les jours, de nouveaux convertis qui reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a tout accompli jusqu'à la croix. Et il est ressuscité pour régner. Dieu est à l'initiative, créateur du ciel et de la terre. Jésus, son Fils, a partagé notre humanité et il nous réconcilie avec le Père. Le Saint-Esprit nous inspire pour nous aider à trouver notre place dans le projet de Dieu pour l'humanité. Pour conclure, Jésus ressuscité a été élevé dans les cieux, c'est l'ascension. Il laisse ses disciples et ses proches avec une grande angoisse quant à leur avenir. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Lors du rassemblement annuel de Pentecôte à Jérusalem, c'est la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Environ 3000 personnes se repentent pour changer de vie. C'est le début de la grande aventure de l'Église chrétienne qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, dans cette chapelle chargée d'histoire depuis bientôt un millénaire. Que nous venions de Hollande, d'Allemagne ou de France, nous participons tous à ce grand projet de Dieu pour l'humanité. Aujourd'hui encore, Jésus nous appelle à le suivre personnellement et en communauté. Il nous appelle à écouter et mettre en pratique son enseignement avec l'aide du Saint-Esprit. Un temps pour attendre, un temps pour agir, et lorsque le Saint-Esprit se répand, il arrive beaucoup plus que ce que nous attendons et pouvons réaliser par nous-mêmes. Amen.